voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quelle vie professionnelle après 50 ou 60 ans? En plein débat sur les retraites en France, la question de l'emploi des seniors se pose partout et dépasse l'actualité immédiate d'ailleurs. Il va falloir travailler plus longtemps, mais le taux d'emploi des 60-64 ans plafonne à 31% en France et à peine plus de la moitié des Français de plus de 55 ans se maintient dans l'emploi. Dur de trouver du boulot après 55 ans, disent ceux qui sont inscrit à Pôle emploi. Alors pourquoi les seniors ne sont pas les bienvenus dans les entreprises? Quels sont les pays où les seniors travaillent plus longtemps? Comment aménager le travail aussi des seniors et leur permettre de partir dans de meilleures conditions à la retraite? On va en discuter avec nos invités. Bonjour Annie Jolivet.
Bonjour.
Vous êtes économiste et chercheuse rattachée au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Également avec nous Mélissa Petit. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, fondatrice de Mixing Generations, qui est un cabinet d'études et de conseils sur la longévité. Jean-Paul Domergue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé du plaidoyer pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, une association qui a été fondée il y a 35 ans, qui a publié d'ailleurs l'année dernière un rapport sur les seniors et l'emploi. Il y en a encore eu un autre rapport qui est sorti ces jours-ci. Il y a eu beaucoup de rapports sur les seniors hier. Il y a eu beaucoup de rapports qui sont sortis sur les seniors et l'emploi. Mais qu'est-ce qui est suivi des faits en France et comment les différents gouvernements prennent en compte ces rapports, c'est une autre question. Nous serons aussi en ligne avec des directeurs des ressources humaines, Nicolas Dobels, responsable des RH de l'entreprise NGE, une entreprise de BTP en France. Également, on entendra un DRH à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui nous dira un peu quel est le débat sur le continent le plus jeune du monde. Et puis, on sera aussi en ligne avec Daniel Pigeon-Angelini, qui est directeur du comité de bassin de l'emploi du Sud-Val-de-Marne et qui a créé le label 45+. Il nous dira comment on fait pour convaincre les entreprises que ça peut être un plus d'avoir des seniors dans leur entreprise.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Et maintenant, on va entendre Chantal. Chantal, c'est un prénom d'emprunt. Elle a 58 ans. Elle a commencé à travailler très tôt, à 16 ans, après avoir eu son premier enfant. Elle a passé sa carrière à travailler dans des abattoirs en Bretagne. Et depuis 30 ans, elle est employée comme femme de ménage dans un abattoir de porc près de Rennes. 800 employés. Charlie Dupiot l'a rencontrée chez elle à 15h30, après sa journée de travail qui débute très tôt.
Alors le matin, le réveil sonne à 6 heures. Il faut faire des échauffements parce que le corps commence à se raidir, à avoir mal partout, les bras, les mains et ben, le dos aussi, hein, pas mal. Comme beaucoup de gens chez nous qui arrivent à la retraite, hein, les gens sont usés, hein, sont fatigués.
Quand vous dites chez nous, c'est...
À l'usine. Ben, moi, ce que je fais beaucoup de ménage dans tout ce qui est l'usine. Je remets du papier dans les distributeurs à papier, papier toilette. Je nettoie tous les locaux qui sont à la disposition des gens, des salles de pause, des toilettes, des vestiaires, des bureaux aussi qui sont en production. Je fais beaucoup de chemin, je fais plus de 10 km par jour.
Vous parcourez 10 km toute la journée ?
Oui, j'avais mis une montre une fois pour voir et je fais plus de 10 km par jour. L'usine est très grande chez nous, donc il y a des ateliers de découpe, il y a des ateliers d'abattage, des ateliers de boulotterie, il y a tout ce qui est, quand on vide les animaux, les boyaux, il y a une odeur, quoi. Quand je reviens de vacances, je dis « Ah, c'est vrai, ça sent un peu ». Mais moi, ça ne me dérange pas. On s'y fait, hein, à l'odeur. J'ai un chariot. Par curiosité, une fois, je l'ai mis sur une bascule pour voir combien ça pesait. Ça fait 100 kilos et je suis obligée de le pousser pratiquement toute la journée, quoi. Parce que moi, j'ai du produit, j'ai du papier, j'ai des sacs poubelles, j'ai toute ma réserve dessus, quoi. Au bout de quelques années, ça fait quand même des kilomètres et du poids à pousser, quoi. Et c'est aussi, quelquefois, le manque de respect des gens par rapport aux personnes qui entretiennent les locaux, tout ça. Ils ne font pas forcément attention, ils renversent du café, ils ne vont pas forcément essuyer. Ou ils vont aux toilettes, ils enlèvent leurs gants jetables, ils laissent ça par terre, tant pis, il y a quelqu'un qui va ramasser, quoi. J'ai l'impression qu'on est prise pour des moins que rien. J'ai du mal à accepter maintenant qu'on ne respecte pas mes collègues. Moi, quand on est jeune, disons qu'on a moins de mal à se baisser, à se relever. Moi, j'ai mal au dos. Alors, quand on dit qu'il faut se baisser pour ramasser des papiers, si c'était pas par terre, j'aurais peut-être moins mal au dos. Je sens que à fin de journée, je suis fatiguée, quoi. Le soir, je peux pas regarder la télé, hein. Je m'endors, quoi. Je connaissais une petite dame qui a fini à 65 ans parce qu'elle n'avait pas tout le temps travaillé. Elle n'allait plus en pause parce que la salle de pause était trop loin. C'était plus la peine. Elle dit, je ne peux pas aller en pause. Quand je vais arriver à ma salle de pause, il va être temps de revenir. Donc elle restait dans la boyauderie. C'est dommage de ne pas pouvoir aller en pause parce qu'on ne peut plus marcher, quoi. Alors qu'on n'a pas de pénibilité de travail chez nous. Parce qu'on n'est pas dans des conditions de froid ou de chaud extrême, d'horaire décalé. Il y a plein qui se sont fait déjà opérer des épaules, canal carpien et tout ce qu'on veut. Même moi, j'ai été opérée du canal carpien au poignet, là. La nuit, c'est horrible, ça réveille plusieurs fois par nuit. Hein. Ça donne des fourmillements dans les doigts.
Qu'est-ce qui a provoqué ça chez vous ?
Moi, les gestes répétitifs, l'éponge, étreindre ma serpillière, c'est à la longue de serrer les mains qui fait que ça se comprime, quoi.
À quel âge ça s'est déclenché chez vous ?
Moi, ça fait 8 ans que j'ai été opérée la première fois et j'ai l'autre qui commence à donner des petits signes.
De l'autre main ?
Ouais.
Vous, combien vous gagnez par mois ?
J'ai à peine 1300 euros par mois, à temps plein.
Net, par mois ?
C'est un poil au-dessus du SMIC, quoi. C'est ça, c'est...
Salaire minimum.
Salaire minimum, ouais. C'est pas beaucoup, quoi. Là, je vais avoir 59 ans et ma retraite, c'est dans un an et demi. Maintenant, je l'attends, la retraite. Parce que là, je suis prête à partir en retraite. Je pense que j'ai suffisamment donné pour pouvoir partir.
Annie Jolivet, qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage ?
Ça m'évoque beaucoup de choses. La première chose que ça m'évoque, c'est quand elle mentionne sa retraite dans un an et demi. Et je me dis que pour beaucoup de femmes en particulier, mais aussi d'hommes qui ont connu des périodes de chômage, voire de maladie ou d'interruption, à la retraite, ça ne sera pas 62 ans. Ça peut être beaucoup plus tard. Et j'imagine mal comment, compte tenu de tout ce qu'elle explique, comment on peut espérer arriver... à la retraite à 63, 64, 67, 70. Je rappelle que 70, c'est l'âge auquel un employeur peut mettre à la retraite d'office un salarié. Donc,
depuis la loi,
ça pose beaucoup
Sarkozy,
de questions.
Hein, ça a été jusqu'à 70.
Et ensuite, vous avez mentionné la réforme des retraites et puis le côté pénible des emplois. On voit que là, manifestement, il y a des aspects d'exigence physique dans son métier. Et aucune des caractéristiques qu'elle évoque ne donne droit à des possibilités de départ en retraite anticipée. C'est-à-dire ni les charges de 100 kilos, ni le fait qu'elle ait à se baisser, ni la marche, les 10 km par jour. Donc il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas forcément...
En fait, on n'est pas dans le cadre de la pénibilité telle qu'elle est définie, mais tout est une question d'âge, en fait.
Non, mais la pénibilité, il y a toujours une différence à faire entre... les caractéristiques et les exigences du travail, et puis les dispositifs sociaux ou institutionnels qui permettent de le prendre en compte.
Jean-Paul Domergue.
Oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est une situation qui échappe aux critères applicables pour caractériser ce qui est la pénibilité, qui donne la possibilité de partir à un âge plus avancé.
Alors, dans la réalité, ceci dit, il y a les arrêts maladie qui sont souvent là pour pallier le manque d'aménagement du travail, parce qu'on l'entend bien aussi, là, dans la description de cet employé, on voit qu'il n'y a aucun aménagement sur son poste de travail. Et ça pose une question, effectivement, comment les arrêts maladie permettent d'arriver péniblement jusqu'à le départ en retraite, en admettant qu'on reste en poste.
Enfin, les arrêts maladie, il faut peut-être différencier quand même les arrêts maladie de courte durée qui peuvent être effectivement nécessaires parce que tout simplement on ne tient plus l'état de fatigue. Mmh. Ce n'est pas forcément une pathologie avérée type longue maladie, mais ça peut être tout simplement un état de fatigue vraiment très important. Mais voilà, les congés longue maladie et les congés maladie genre absentéisme courte durée, ce n'est quand même pas la même chose.
Mélissa Petit.
Oui. Escape, pardon.
Non, c'est pas la même chose, mais enchaîner des arrêts maladie de courte durée, de manière répétée au fur et à mesure du temps, c'est pas non plus, je dirais, la solution adéquate. Et on voit bien qu'il y a une nécessité de prendre le sujet de manière plus globale pour améliorer les conditions de travail, même si ça ne soumet pas aux critères de pénibilité.
Les pré-retraites, telles qu'on les a beaucoup utilisées dans les années 90, c'est ça ?
Plutôt 80, oui, ouais. 80 jusqu'au... Oui, jusqu'au...
C'est terminé, mais on voit beaucoup de départs anticipés, des ruptures conventionnelles à 2 ou à 3 ans de la retraite, et ensuite, c'est le chômage qui va faire la jointure avec la retraite. C'est une pratique qui est devenue courante ou pas, ça ?
Et qui est plus importante pour les seniors, effectivement, que pour les autres catégories de salariés. Enfin, ça, les études le montrent, puisque les ruptures conventionnelles qui précèdent les 2 ou 3 ans de l'âge de départ à la retraite sont beaucoup plus nombreuses que pour les autres catégories. Donc, effectivement, c'est un moyen qui est utilisé pour anticiper le départ, et avec le relais de la prise en charge par l'assurance chômage, on a ainsi la possibilité d'atteindre l'âge de normal de départ à la retraite.
Oui. Alors on l'a dit, travailler jusqu'au départ à la retraite, encore faut-il le pouvoir physiquement sur certains métiers, sur certains postes, mais encore faut-il le pouvoir, c'est-à-dire avoir un emploi. À partir de quel âge on est considéré dans le monde du travail par les entreprises comme un senior, Mélissa Petit ?
Par les entreprises, ça peut être dès 45 ans. Hein. Mais c'est cette deuxième partie de carrière. Mais malgré tout, on est vraiment senior entre 50 et après 55 ans. C'est, cette question de la barrière d'âge, elle est véritablement, je dirais, inefficace et inopérante. Parce que, on est dans son parcours d'emploi au fur et à mesure du temps. Et que c'est aussi comment on accompagne ce parcours, et particulièrement ce parcours en fin de carrière. Mais oui, on devient senior en seconde partie de carrière et parfois pour certaines entreprises dès 45 ans. Après, il y a des mesures qui sont plutôt 55 et plus.
Quels que soient les niveaux de qualification ?
Alors, je pense qu'il faut faire une différence entre ce que les entreprises ont l'habitude d'utiliser comme seuil d'âge. Hein. Pour certaines d'entre elles, effectivement, elles assimilent 45 ou 55 ans au fait de passer le cap et d'être senior. Pour d'autres, la question ne se pose pas dans ces termes-là, même dans des entreprises où il peut y avoir du travail exigeant physiquement, par exemple. C'est pas forcément toujours un seuil d'âge qui est utilisé. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter sur la représentation qu'on a de ce qu'est un senior, voire même sur le côté pertinent d'utiliser cette dénomination. Alors, je voudrais juste donner un exemple. Aujourd'hui en France, en fait, entre les possibilités de partir avant l'âge de la retraite avec une décote et puis les possibilités d'aller jusqu'au bout, donc jusqu'aux 70 ans de mise à la retraite, vous voyez que l'échelle des âges possibles est énorme. Et à quel moment on peut légitimement dire que quelqu'un devient senior, ça n'a pas beaucoup de sens. À 55 ans, une personne peut avoir encore, on va dire, 15 ans. Voire plus d'activités à faire. Donc, se dire 55, donc je n'ai plus qu'à, en tant qu'employeur, à gérer quelqu'un jusqu'à 62, c'est un leurre.
Sauf que dans la réalité, le taux d'emploi des 60-64 ans, c'est 31%. Donc, en fait, où sont tous les seniors qui ne sont plus dans l'emploi aujourd'hui ?
Il y a une partie qui sont en chômage, d'autres qui sont en inactivité, enfin, qui ne sont pas en chômage.
Ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi ?
Ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Il y en a, on compte à peu près 7% hein, de seniors en chômage. Par contre, ceux qui sont en chômage, ils restent très longtemps, hein, beaucoup plus que les autres catégories. Parce que le chômage de longue durée chez les seniors est très élevé. Hein, voilà. Donc, on a là une grande partie des seniors qui sont en inactivité, ils peuvent être en maladie, ils peuvent être dans ce qu'on appelle le halo du chômage.
C'est quoi le halo du chômage ?
Alors, le halo du chômage, c'est des personnes qui sont sans emploi, dépourvues d'emploi, mais qui ne sont pas considérées comme demandeurs d'emploi, enfin, qui ne sont pas considérées comme chômeurs au sens du BIT, parce qu'ils ne répondent
pas à l'Union internationale du travail.
Voilà.
Donc, ce sont des gens qui vivent de quoi ? Comment ? Dans la galère ? Avec les minima sociaux ?
Oui, par exemple, oui. Oui, les minima sociaux, oui, bien sûr.
Oui. Sur cette... Oui, Mélissa Petit ?
Non, c'était...
Enfin, minima sociaux ou rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui... alors, surtout dans ces cohortes plus âgées, il y a une réticence à demander des aides, même quand on y a droit, pour certains. Mmh. Ce qui fait qu'ils disparaissent complètement des radars de la statistique publique. Mmh. Hein, et donc, on a des gens qui sont effectivement un peu le même type de dénomination qu'on a pour les jeunes. On parle des ni en emploi ni au chômage. Mmh. Ben là, c'est pareil. On a des gens qui sont ni en emploi ni au chômage, ni en maladie. Enfin, donc, des gens dont on ne sait pas exactement quel est le niveau de revenu et les conditions de vie.
Et des gens qui disent... couramment, bah, j'ai 55 ans, c'est fini pour moi, quoi. En gros, alors que j'ai pas du tout cotisé suffisamment, mais je sais que je vais pas retrouver de travail. Ou alors, sur du court terme, des petits boulots.
En fait, la situation de... Enfin, retrouver un emploi, c'est extrêmement difficile, c'est vrai. Et ça dépend beaucoup à la fois de, j'allais dire, du lieu où vous habitez, donc des possibilités d'emploi autour de vous. De vos capacités propres. Vous pouvez, il y a des gens qui sont, par exemple, dans des métiers qualifiés, relativement demandés, et qui, même à 55 ou 56 ans, ou même plus tard, peuvent retrouver un emploi. Par exemple, aujourd'hui en France, on manque beaucoup d'infirmières. Donc, on a des infirmières qui retrouvent des emplois à des âges très avancés, ce qui n'est évidemment pas la même chose que, par exemple, quelqu'un qui serait peu qualifié et qui passerait d'un emploi ménage, caissier, etc. C'est des emplois où il peut y avoir une grosse rotation et donc des difficultés ensuite à retrouver un autre employeur une fois qu'on a perdu son emploi.
Chez les cadres, ça se passe comment à l'heure actuelle ?
Chez les cadres, il y a des cadres... Pardon.
Oui, allez-y. Oui. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas bien.
Nous avons des cadres seniors qui ont du mal à retrouver un emploi. C'est-à-dire, c'est là-dessus, d'ailleurs, nous, face Solidarité Nouvelle, face au chômage, on critique assez le dispositif nouveau d'assurance chômage qui prévoit pour eux l'application d'une dégressivité systématique à partir de 57 ans, qui s'applique à tous d'emblée, sans discernement, si vous voulez, quelle que soit la situation des personnes. Et alors que ce sont des personnes qui sont actives dans leur recherche d'emploi et qui ont du mal à retrouver une activité malgré leur qualification. Parce que, si vous voulez, elles sont seniors et que dans les entreprises, quand on est au chômage, eh bien, c'est un élément qui fait que vous n'êtes pas considéré comme un salarié comme un autre.
Est-ce qu'il y a un problème spécifique en France ou pas, Annie Jolivet ?
Alors, vous voulez dire sur le fait qu'on rejette des gens d'un certain âge sur le marché du travail et qu'on les embauche peu. Parce qu'en fait, les données du problème, si on va très vite, c'est un peu ça. C'est de savoir si on perd plus fréquemment son emploi à partir d'un certain âge et si on a du mal à retrouver.
Alors, et un peu toutes qualifications confondues, c'est ce que vous venez quand même un peu de nous dire, hein, finalement. Alors moi, je pense qu'à part certains secteurs en tension.
Je pense quand même qu'il y a des questions de qualification et de secteur. Qualification, secteur, territoire, ça joue beaucoup sur les possibilités de retrouver un emploi. Mais globalement, effectivement, on a du mal à retrouver un emploi, surtout quand on passe des processus de recrutement un peu automatisés, où à ce moment-là, le tri est très rapidement fait, et ce que les entreprises vont privilégier, ou les recruteurs aussi, hein, les plateformes, elles vont privilégier plutôt des gens qui sont dans le... Comment dire, qui présentent toutes les caractéristiques censées être positives, c'est-à-dire jeunes, diplômés, etc.
Ne mettez pas votre âge sur un CV, ça on l'entend quand même très souvent. À partir de quel âge ? De 45 ans, de 47 ans ?
Je pense que pareil, hein, ce que disait Annie tout à l'heure, il n'y a pas forcément de seuil d'âge, mais ça commence quand même à... Oui, dans la quarantaine ou en tous les cas fin de quarantaine. Mais juste pour revenir à ce que disait Annie, il y a quand même peut-être un autre critère qui est le critère du genre. C'est-à-dire de territoires... qualifications et secteurs, que aussi à prendre en considération dans ces sujets d'emploi des seniors, emploi, chômage des seniors, qui me semble aussi important.
On va donner la parole à un DRH qui est en ligne avec nous. Bonjour Nicolas Dobels.
Oui, bonjour.
Vous êtes en charge des ressources humaines sur la moitié Est France pour l'entreprise de BTP NGE. C'est une entreprise de 12 000 salariés.
Tout à fait.
Cinquième entreprise française de BTP, me semble-t-il. En tout cas, le BTP, c'est un secteur important en France. Et d'ailleurs, le DRH de Bouygues est l'un des auteurs du tout dernier rapport Bellon qui vient de sortir là, ces jours-ci sur les seniors dans l'emploi. Dites-nous, vous, à votre niveau en tant que DRH, comment se pose la question des seniors dans le secteur du BTP ? Est-ce que c'est en fonction des qualifications ? On en a pas mal parlé là, à l'instant.
En ce qui nous concerne, la question de l'âge ne se pose pas vraiment. À partir du moment où... Les personnes que l'on rencontre sont en forme et peuvent travailler. La question de l'âge ne la pose pas. Et bien au contraire, il y a des situations où on préférera embaucher des salariés qui ont un certain âge parce que on est très intéressé par leur expérience et leur expertise.
Parce que ce sont des expériences, des expertises qui sont un peu rares, parce qu'on est dans un secteur où vous embauchez pas mal et où vous êtes un peu en tension.
Exactement. Ben nous, on recrute à peu près 2000 personnes par an. Mmh. Donc effectivement, on va aller chercher des expériences. Alors, si vous voulez, on a deux, que ce soit pour des cadres, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise ou des ouvriers, on va être intéressé par les expertises et les expériences des uns et des autres. C'est aussi un savoir-être. Et pour des ouvriers, ce sont aussi des gestes professionnels et un vrai savoir-faire qui nous intéresse et qui nous permet de gagner en performance et puis qui nous permet aussi de d'accompagner les plus jeunes pour
les plus de 45 ans, c'est combien en pourcentage chez vous?
C'est 35% d'effectifs. On a à peu près 35% d'effectifs chez NGE qui a plus de 35.
Alors plutôt chez les ouvriers, plutôt chez les techniciens, chez les ingénieurs.
Tout confondu.
Et chez les ouvriers, par exemple, sur des chantiers, avoir plus de 50 ans, c'est pas un problème?
Ce n'est pas un problème. Alors évidemment, pour des ouvriers, la question va se poser parce qu'on est quand même sur des métiers physiques.
Nos invités sont un peu dubitatifs. Hein, vous...
Non, c'était pas ce que je voulais dire.
Non, mais je regarde leur visage seulement. Mais...
Non, ce que je voulais,
non, mais, si
ce
vous
que
voulez,
je voulais juste rajouter, peut-être, c'est que effectivement, dans les ouvriers, les 50 ans et plus parmi les ouvriers du bâtiment, c'est forcément un petit peu plus compliqué d'en avoir dans les effectifs parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'atteintes à la santé qui peuvent se produire au cours de la carrière. Il peut y avoir des accidents aussi. Les métiers du bâtiment et de la construction sont vraiment des métiers où les exigences physiques sélectionnent beaucoup dans les métiers ouvriers en particulier. Donc, ce n'est pas du tout une critique par rapport...
Et où l'accidentologie est évidemment plus élevée que quand on travaille dans un bureau.
Si vous voulez, effectivement, à partir du moment où vous êtes sur des métiers donc d'ouvriers, vous êtes sur des métiers de conducteur d'engin, de maçon, de coffreur et autres, effectivement, la première chose qu'on va regarder, c'est effectivement est-ce que les personnes ont une aptitude médicale à pouvoir travailler. Et cette question, on va se la poser, que la personne soit senior ou plus jeune. Mmh. Quel que soit l'âge, bon. À partir du moment où médicalement il n'y a pas de difficulté, l'âge n'est pas un sujet. Nous, on recrute régulièrement sur tous les métiers. Et cette année, sur l'année 2019, on a recruté à peu près 80 personnes qui avaient plus de 55 ans. Sur ces personnes-là, on a une bonne moitié qui occupe des postes d'ouvriers sur le terrain. Ce ne sont pas seulement des cadres et des étapes. Mais effectivement, la première question qu'on va se poser en amont, c'est l'aptitude physique. Mais après, pour le reste, on est plutôt preneur et friand de ces profils-là.
Jean-Paul Domergue, vous êtes dans le studio de RFI. Vous êtes chargé du plaidoyer pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous avez publié un rapport sur les seniors et l'emploi. Vous, qu'est-ce que vous constatez sur des secteurs qui, à la fois, recrutent, mais en même temps, où il y a de vraies pénibilités au travail?
Nous, ce qu'on constate de façon un peu générale, c'est que il y a très peu d'entreprises qui anticipent, si vous voulez, les problèmes de santé ou de pénibilité, des conséquences de la pénibilité au travail. Alors, les plus grosses le font, sans doute que le DRH que nous avions à l'instant prend en compte cette dimension. Mais
les plus grosses entreprises, sous-entendu, parce qu'il y a une politique des ressources humaines.
Mais dans les autres situations, il y a très peu de gestion prévisionnelle de ce qu'on appelle l'emploi et la compétence. Et si vous voulez, les questions d'adaptation de l'évolution professionnelle au cours de la carrière est très peu envisagée. Et c'est quand il est trop tard qu'on se préoccupe du sujet.
Nicolas Dobel, c'est ce que vous, par exemple, vous voyez ça chez vos prestataires dans le secteur du bâtiment, donc des PME qui sont moins armés, moins de stratégie de ressources humaines par rapport à vous?
Alors, écoutez, moi, personnellement, répondre à cette question serait un peu compliqué parce que je n'ai pas forcément de visibilité sur ce que peuvent faire nos prestataires. Après, ce que je sais, c'est qu'en règle générale, on a quand même plutôt des opérationnels qui sont vigilants aux qualifications et aux compétences et la manière dont les choses peuvent être abordées chez les gens qui travaillent avec nous. Après, effectivement, probablement que dans les entreprises un peu plus structurées comme les nôtres, effectivement, je te dis, on est peut-être un peu plus attentif à ces sujets-là qu'on peut l'être.
Mais alors finalement, ce que vous nous dites, Nicolas Dobel, c'est que bon, bah, les seniors dans le BTP, en tout cas à votre niveau, pas de problème, rien à signaler.
Non, mais non seulement il n'y a pas de problème, mais c'est qu'on souhaite qu'ils nous rejoignent.
Qu'est-ce qu'il faudrait quelque chose de... Il faudrait qu'il y ait une incitation ou pas ?
Pardon ?
Il faudrait qu'il y ait une incitation fiscale.
Ah, évidemment, tout est toujours bienvenu. Après, c'est aussi, tu voulais, il y a quand même une idée reçue, alors dans la tête peut-être de certaines entreprises et aussi de certains candidats, que passer un certain âge, c'est un petit peu compliqué. Nous, c'est pour ça qu'on
donc le blocage,
a été labellisé récemment.
Aussi chez les seniors, en fait, c'est ce que vous nous dites. Hein.
Comment ?
Le blocage, il est en partie chez les seniors eux-mêmes.
C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui sont tout à fait disposées à recruter des seniors. Et qu'il faut le savoir, c'est tout, et qu'il ne faut pas hésiter à candidater. Quoi.
Alors, c'est sans doute aussi un des secteurs d'activité où il y a peut-être le plus de métiers en tension.
Oui. Avec la restauration.
Donc on prendrait d'autres secteurs d'activité, sans doute que le problème serait différent.
Ah ben, des secteurs d'activité où il y aurait des problèmes économiques, les sujets seraient peut-être très différents, effectivement. Nous, dans notre cas, on a de gros besoins.
J'ai une dernière question à vous.
On a besoin de toutes les compétences.
J'ai une dernière question à vous poser, Nicolas Dobels, en tant que DRH dans le BTP. Est-ce que vous faites partie de ces entreprises qui sont très nombreuses, qui disent, réalistes en tout cas, sur le plan financier, qui disent les seniors coûtent trop cher, parfois pour leur productivité. Et il faut savoir que même pour des cadres, à 40 ans, on peut être aussi qualifié qu'à 55 et on coûte beaucoup moins cher.
Non. À partir du moment où vous allez chercher un senior qui a une expertise, qui a cette expérience, si vous le payez un petit peu plus cher ou plus cher, c'est normal. Mais c'est en rapport avec le savoir-faire que vous allez chercher. C'est un investissement. Hein. C'est tout simplement. Hein.
Merci beaucoup Nicolas Dobels, responsable DRH dans l'entreprise NGE de BTP. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Juste peut-être un commentaire sur les niveaux de salaire à Nigel-Olivet. Si on regarde par rapport à d'autres pays en Europe, on entend souvent dire que les niveaux de salaire après 45 ans, non seulement ça n'augmente plus, mais souvent ça diminue. Donc du coup, ça rend les seniors plus attractifs sur le marché du travail pour les entreprises.
Vous voulez dire les niveaux de salaire diminuent après 45 ans en France ?
Non. Dans d'autres pays en Europe, notamment en Allemagne, on l'a entendu.
Alors c'est très compliqué parce qu'en fait on n'a pas suffisamment d'études récentes sur les niveaux de salaire selon l'âge. En France, ce qui a beaucoup poussé le commentaire sur un niveau de salaire plus élevé pour les gens les plus âgés, c'était le fait que on licenciait, on sortait de l'emploi plutôt des gens qui étaient plutôt en bas niveau de qualification ou au niveau moyen. Et donc restaient en fait en emploi les gens qui étaient les mieux payés. Donc ça avait tendance à pousser le salaire moyen à ces âges-là à la hausse. Dans la réalité, une fois qu'on n'est plus sur ce genre de départ très massif, il suffit de regarder les politiques salariales en France, on n'a pas une montée des salaires avec l'âge continuellement jusqu'à la fin de la carrière. Donc il y a quand même d'abord des phénomènes de plateau qui peuvent arriver quand même assez tôt. Et ensuite, les augmentations salariales sont beaucoup des augmentations aujourd'hui qui mélangent du général et de l'individuel. Donc on n'est pas uniquement sur de l'augmentation automatique avec l'âge.
Mélissa Petit, c'est pas le prix du senior, c'est pas le problème principal ?
En tous les cas, on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues dans la société ou des stéréotypes sur le senior, sur à la fois ses conditions, son rapport au corps, son rapport à la santé, ses sujets liés au salaire, et qu'il y a un besoin aussi de reposer comme ça a été fait, et cela s'est fait dans cette émission, certains clés du débat. Mais je pense qu'il y a un mot qui est important aussi dans le dernier rapport Bello qui a été mentionné, c'est qu'on ne parle plus de seniors, en fait. On parle de travailleurs expérimentés. Et c'est ce que montrait aussi...
Ça, c'est comme les techniciens de surface. Hein. Enfin bon, on peut changer les mots, mais je ne sais pas si on va changer beaucoup la réalité.
Mais je pense que malgré tout, que les mots sont importants dans l'imaginaire collectif. Si on fait un parallèle avec la situation actuelle des retraites, où on voit ce côté de retirer, alors que être à la retraite, ce n'est pas du tout ça, ça a quand même un poids.
Alors, on va en reparler, bien sûr, des préconisations des différents rapports qui se succèdent et surtout de ce que vous imaginez comme être des mesures d'avenir pour favoriser l'emploi des seniors. Ça sera juste après Daba, Oum, et bien sûr, on donnera aussi la parole à un DRH en Côte d'Ivoire et puis aussi à un créateur d'un label pour inciter les entreprises à mieux se positionner sur l'emploi des seniors. Vous écoutez RFI, on est chez 7 milliards de voisins. On se pose la question, quel emploi pour les seniors en plein débat sur les retraites? Et d'ailleurs, la question ne se pose pas qu'en France. Hein. Dans d'autres pays d'Europe, l'allongement de la durée du travail est une réalité. Alors se pose la question de la pénibilité, la question de trouver, de rester dans l'emploi. Quand beaucoup de seniors disent que c'est difficile, qu'ils ne se sentent pas bienvenus dans les entreprises. On entendait un DRH dans le bâtiment qui nous disait tout à l'heure qu'il n'avait pas de problème pour recruter des seniors dès lors qu'ils avaient une vraie qualification. Et c'est vrai qu'on est dans le secteur du BTP un peu en manque de personnes qualifiées. On va donner la parole maintenant à Daniel Pigeon-Angelini qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du comité de bassin de l'emploi du Sud Val-de-Marne et vous avez initié un label qui s'appelle Emploi 45+. Quand on disait tout à l'heure qu'on est bien senior à partir de 45 ans, voilà, je crois que c'est clair. Label Emploi 45+, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous faites? Vous allez démarcher les entreprises pour les inciter, pour leur expliquer que c'est super d'embaucher ou de conserver des personnes qui ont plus de 45 ans dans leur entreprise?
Alors oui, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, on a donné le label Emploi 45+ à l'entreprise que vous venez de recevoir, à NGE. Oui, effectivement, ça consiste en fait à proposer aux entreprises d'informer l'ensemble des demandeurs d'emploi de plus de 45 ans qu'elles sont ouvertes à leur recrutement. C'est pas plus que ça. J'entendais tout à l'heure un de vos intervenants qui disait effectivement qu'on reçoit ou qu'on voit beaucoup de demandeurs d'emploi qui disent « moi j'ai 55 ans, c'est foutu ». Ben, l'idée du label, c'est de pouvoir leur dire non, c'est pas foutu. La preuve, il y a des entreprises qui font cette démarche de dire nous, on est ouverts. Elles ne vont pas forcément vous recruter, mais au moins, elles sont ouvertes à la possibilité de recruter des plus de 45 ans.
Et quels sont les arguments pour décider les entreprises?
L'argument pour décider les entreprises, c'est le premier argument, hein, c'est qu'ils sont nombreux et qu'ils veulent travailler. Je crois que il y a effectivement tout un discours sur les avantages de salariés plus expérimentés. J'entendais parmi vos invités le débat tout à l'heure, est-ce qu'il faut dire expérimenté, est-ce qu'il faut dire senior, etc. Je crois qu'il faut surtout dire que c'est des personnes très nombreuses. Rappelons qu'il y a 4 demandeurs d'emploi sur 10, en gros, qui a plus de 45 ans, donc c'est énorme. Et que c'est des salariés, entre guillemets, normaux, qui ont envie de travailler, qui ne sont pas forcément, et là aussi il faut changer la représentation que l'on a de l'image du senior, le vieux sage qui va rentrer dans l'entreprise pour transférer son savoir-faire.
En même temps, entre 45 et 60 ans, c'est quand même pas du tout la même chose. Il y a 15 ans d'écart et on est toujours senior.
Tout à fait, mais les ennuis commencent à 45 ans. Les statistiques le montrent. Ouais. L'année dernière, tous les indicateurs étaient ouverts, grosso modo. On n'a pas encore les chiffres finaux sur 2019, mais en 2018, tous les indicateurs étaient ouverts, sauf à partir de 45 ans. Donc c'est quand même bien là où les ennuis commencent.
Et quelles sont les conditions pour que ça fonctionne, en fait ? Que vous disent les entreprises que vous labellisez ?
Alors, les entreprises qu'on labellise, ben, effectivement, elles le font soit parce qu'elles recherchent des candidats plus seniors, hein, pour certaines qualités, réelles ou supposées d'ailleurs, hein, comme c'est toujours très difficile de dire telle population ou tel type de population a telle ou telle qualité. Bon. Mais par exemple, on a les chauffeurs de bus, on a Keolis qui a été labellisé, et lui nous explique qu'il est content d'avoir des chauffeurs de bus qui prennent un peu plus de recul, vis-à-vis des incivilités, vis-à-vis de ça, qui sont plus calmes, qui ont moins d'accidents, etc. Donc il y a ceux qui recherchent vraiment les plateformes téléphoniques aussi, par exemple, qui sont en demande de ce type de recrutement.
Et c'est quoi l'avantage supposé des seniors dans les plateformes téléphoniques ?
Oh ben là, l'élocution, la qualité de l'échange, l'expérience dans l'échange, je dirais.
Finalement, là, on a l'impression qu'on oppose un peu les jeunes ou les moyens jeunes et les seniors. Mais est-ce qu'on évoque aussi la richesse d'équipes plurigénérationnelles ?
Tout à fait. Justement, c'est bien pour ça que quand on dit qu'il faut changer la mentalité, c'est vraiment... Il faut considérer justement que le demandeur d'emploi de plus de 45 ans, c'est un demandeur d'emploi, entre guillemets, normal, qui vient proposer ses compétences dans l'entreprise et qu'il doit être jugé, non pas parce qu'il a 45, 50 ou 25 ans, mais par les compétences qu'il va apporter à l'entreprise. Et c'est justement ça, en fait, un peu la révolution qu'on veut arriver à faire sur les seniors et qui, en fait, a plus ou moins été réussi du côté des femmes.
Oui, oui.
Aujourd'hui, on aurait du mal à dire, pour un DRH, j'embauche des femmes parce qu'elles sont plus maternelles. Ben, pour les seniors, c'est un peu pareil. Ils embauchent des seniors parce qu'ils ont besoin d'une force de travail.
Combien d'entreprises qui ont ce label emploi 45+, aujourd'hui, Daniel Pigeon-Angelini ?
Alors aujourd'hui, on est une petite dizaine, mais il faut savoir que ce label a été lancé à titre expérimental dans le Val-de-Marne, avec vocation à être étendu ultérieurement. Mmh. Mais pour l'instant, on est... limité à ce département.
Est-ce que l'emploi des seniors s'est comptabilisé dans la note sociale des entreprises ? Je pose la question aussi à nos invités. Vous avez déjà entendu ça ? Non, mais c'est vrai, pourquoi pas ?
Certaines entreprises mentionnent cet indicateur ou des dispositions qu'elles prennent, par exemple dans leur rapport d'activité annuel. On trouve des traces de ce genre de choses. Maintenant, la grande difficulté, c'est que ce sont souvent des grandes entreprises qui mettent ça en avant. Et que le taux d'emploi, puisque c'est généralement le terme utilisé, le taux d'emploi des seniors dans une entreprise, ça n'a pas beaucoup de sens et ce n'est pas très facile à interpréter.
Merci en tout cas, Daniel Pigeon-Angelini, d'avoir été en ligne avec nous. On va, avant qu'on aborde la question avec les uns et les autres des préconisations, de ce qu'il faudrait faire pour vraiment avancer sur ce sujet-là et pour finalement que la France cesse d'être en retard sur la question de l'emploi des seniors par rapport à d'autres pays européens, je voudrais qu'on donne la parole à un DRH sur le continent africain, le continent le plus jeune au monde. Bonjour Mohamed Kaba.
Bonjour.
Je pense que vous devez écouter nos discussions d'un regard un peu amusé. Vous êtes DRH dans le groupe Ecobank. Alors, sur le continent africain, les jeunes disent souvent que les vieux occupent trop les places sur le marché de l'emploi, en tout cas pour des emplois qualifiés. Comment vous voyez les choses ? Comment vous réagissez ?
Ben, écoutez, c'est vrai que je regarde tout ça avec un regard un petit peu amusé, dans la mesure où la question de l'âge se pose pas réellement chez nous de la même manière que ça peut se faire dans un pays comme la France ou d'autres pays occidentaux. Généralement, cette population-là est traitée de deux manières sur nos marchés. Vous avez des emplois seniors ou des emplois de leadership sur lesquels ces seniors-là sont quand même prisés. Parce qu'ils viennent avec une expertise, une expérience et une maturité professionnelle qui permettent de faire avancer le business de notre côté. En même temps, je dirais sur des emplois moins, élevés, des emplois qui ne sont pas des emplois de management, Et compte tenu du fait que le secteur dans lequel je me trouve est la plupart du secteur des services, il y a beaucoup d'investissements à faire en technologie et en digitalisation. Ces seniors peuvent se retrouver à certains moments légèrement décalés par rapport à ces évolutions. Donc ce qu'on fait sur ces métiers-là, on essaie de rajeunir avec des jeunes à même de pouvoir facilement s'ajuster ou s'adapter à ces changements technologiques et digitaux qui se passent. Et à ce moment-là, on peut faire partir par des programmes des seniors. Donc ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il y a des possibilités de pré-retraite sur la plupart de nos marchés, et c'est à partir de 55 ans.
Ouais, donc en fait, ce que je comprends, c'est quand même en dehors des grands postes de management, dans un secteur comme la banque qui est en plein bouleversement numérique, d'autant plus sur le continent africain, c'est que ça va quand même être difficile dans les années à venir pour les seniors, hein, finalement, même chez vous.
Alors, je ne sais pas, la ligne est légèrement interrompue. Je n'ai pas entendu votre dernière précision.
Non, je disais que ce que je comprends, c'est que même chez vous, en Afrique, dans le secteur de la banque qui est en pleine révolution digitale, ça va être compliqué pour les seniors.
Pas vraiment. En sens où je l'indiquais tantôt, quand on regarde, par exemple, chez nous, dans notre entreprise, tout le management dans la plupart des filiales que nous avons dans les 33 pays en Afrique et même au niveau du groupe, les seniors se retrouvent à avoir les positions les plus élevées. Et ces seniors-là ont entre 45 et 55 ans. Ouais. Ça devient problématique quand on s'approche de 55 ans.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Mohamed Kaba, DRH, dans le groupe EcoBank. Les uns et les autres, Annie Jolivet, Mélissa Petit et Jean-Paul Domergue, à la lumière des différents rapports, notamment le tout dernier, le rapport Bellon, qui a été rendu au Premier ministre cette semaine, mais il y a eu aussi le rapport l'année dernière, les seniors et l'emploi de votre association Jean-Paul Domergue, Solidarité Nouvelle face au chômage. Qu'est-ce qui apparaît? Quelles sont les différentes préconisations qui apparaissent indispensables là, dans les années à venir, parallèlement ou en même temps au débat sur la réforme des retraites, Jean-Paul Domergue?
Alors, l'une des
Il nous reste très peu de temps, allez-y.
Très bien. L'une des préconisations que nous faisions, c'était d'abord que les seniors puissent accéder à la formation autant que les autres catégories de salariés et qu'ils puissent bénéficier aussi d'adaptation de leur poste de travail en fonction notamment de la pénibilité du poste, qu'on puisse aussi adapter l'organisation du travail dans l'entreprise en fonction, en tout cas pour ceux qui ont une expérience significative. Et puis, on estime aussi que, si vous voulez, il faut qu'ils aient une visibilité sur leur avenir professionnel, ce qui est rarement le cas, puisqu'on considère, alors peut-être pas à 45 ans, mais un âge un peu plus avancé, qu'ils ont la perception qu'on ne les considère plus comme pouvant avoir un avenir professionnel dans l'entreprise. Et cette perception les démotive, fait que finalement, ils se sentent plutôt marginalisés. Et c'est ainsi que, dans leur tête, si vous voulez, ils ont une envie de cessation d'activité, quoi. Mais c'est un climat qui est entretenu.
On est sur la perception culturelle et le climat psychique. Mélissa Petit.
Oui, peut-être pour compléter, parce que ces mesures, je les trouve aussi pertinentes, c'est prendre en considération l'emploi des seniors dans une démarche beaucoup plus globale de parcours de vie et d'accompagnement tout au long du parcours de vie des questions d'emploi et d'employabilité. Surtout dans une société où il y a un certain nombre d'emplois qu'on ne connaît pas encore, notamment avec la révolution du numérique, dans une société où on est de plus en plus slasher, polyactif, ou en tous les cas, on peut y tendre de plus en plus, où on va sûrement être obligé, ou avec aussi du choix, il y a à la fois subir et choisir, ces transformations du marché de l'emploi et des emplois au fur et à mesure du temps en termes de statut. Donc c'est comment on accompagne tout ce parcours d'emploi et donc pour favoriser aussi un meilleur emploi des seniors. Et le deuxième point, pour compléter par rapport à la réforme des retraites, c'est comment on accompagne cette transition emploi-retraite, puisqu'on le voyait, il y a quand même énormément de seniors qui ne sont ni en emploi ni au chômage, et comment en tous les cas on redynamise la fin de carrière, voire aussi pour créer de nouvelles procédures, ou en tous les cas redynamiser la procédure de la retraite progressive.
Alors voilà, la retraite progressive, il faut donc bien distinguer les seniors de 45-50 ans et puis ceux qui ont plus de 60 ans, permettre de lever lever le pied à la soixantaine avec un système de retraite progressive où il y aurait à la fois du temps partiel plus une possibilité de toucher sa retraite pour compléter. Est-ce que ça, c'est une piste qui vous semble intéressante ou pas, Annie Jolivet ?
C'est une piste intéressante, mais comme tous les dispositifs qui aménagent de la transition entre l'emploi et la retraite, il y a quand même un danger dans cette histoire-là. Le danger, c'est que ça implique de passer, de réduire son temps de travail. Donc réduire son temps de travail, c'est réduire ses revenus. Même si vous avez une forme de compensation, soit par l'entreprise, soit par un dispositif comme la retraite progressive, c'est quand même une perte de revenus. Et derrière cette perte de revenus immédiate, il y a une réduction potentielle des droits à la retraite plus tard. Comme tous les dispositifs de temps partiel, c'est vraiment à prendre avec beaucoup d'attention. Et surtout, ça pourrait entériner l'idée que quand on arrive à un certain âge, en fait, la seule voie, c'est réduire son temps de travail. Je rappelle quand même que, en fait, de mon point de vue, il faudrait vraiment arrêter de se dire « on est senior à 45 ans ». Non, on n'est pas senior à 45 ans, on peut être considéré comme senior. Mais dans la façon dont on vit sa vie professionnelle, dans ses accès à la formation, il n'y a aucune raison, aucune, même économiquement, d'envisager les choses en segmentant des actions à 55 ou 54 ou 65. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font beaucoup de réflexions marketing, entre guillemets, hein, sur on va proposer ça aux seniors actifs et ça aux seniors désengagés, etc. Derrière ça, la question, c'est quel est le travail qu'on propose aux salariés dans leur ensemble et quel est le type d'accompagnement qu'on peut avoir en matière de formation, de progression, etc.
Je pense qu'il y a vraiment un sujet du désir et du sens de l'emploi. C'est redonner aussi du sens.
Point commun avec les jeunes, là, pour le coup.
Tout à fait. Et il y en a besoin, en fait, tout au long de son parcours aussi. Mais vraiment, pourquoi on travaille et aussi on va continuer, en fait, à avoir une activité en étant engagé parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc c'est aussi véritablement important.
On va peut-être faire une petite piste vers les jeunes quand même, parce que les jeunes ne sont pas sortis de la question. Quand on envisage sa vie professionnelle, l'emploi des seniors, ça ne se joue pas à la fin. L'emploi des seniors, ça se joue tout au long de la vie professionnelle. Est-ce qu'on fait les bonnes options de carrière? Est-ce que quand on fait des mobilités, on sait juger à quel moment il faut changer éventuellement d'emploi? Est-ce qu'on arrive à maintenir sa santé? Est-ce qu'on a un employeur qui est attentif à ça aussi? Et par exemple, pour les jeunes, est-ce qu'on arrive à rentrer suffisamment rapidement dans un emploi? Ou bien est-ce qu'on se retrouve confronté à une période très longue dans laquelle on passe de petit boulot en petit boulot et puis sans vraiment pouvoir se stabiliser? L'enjeu, il n'est pas seulement à la fin.
Mais on voit bien que c'est... Est-ce qu'on donne la compétence d'un savoir-devenir à ce jeune? Ou est-ce que aussi... Et où, je dirais, on crée aussi des médiateurs qui ont ces capacités? Parce que tout redonner à l'individu, c'est pas forcément donner à tout le monde d'être toujours dans ses capacités.
Des médiateurs qui seraient justement des seniors ou pas?
Pas forcément des seniors, mais par exemple, c'est l'exemple du DRH de l'entreprise de construction. Les entreprises de construction ont beaucoup travaillé sur la santé au travail. Et donc, la santé au travail, si on l'envisage comme uniquement de la prévention des accidents, c'est loin d'être suffisant. Donc, il faut l'envisager comme quelque chose qui joue sur l'amélioration des conditions de travail et sur le sens du travail quasiment à tout âge.
Et c'est ça, et qui profite à tous. Merci en tout cas pour vos réflexions, Annie Jolivet. Vous êtes économiste, chercheur rattaché au CNAM. Merci à vous, Mélissa Petit du cabinet Mixing Generation. Et merci à Jean-Paul Domergue, chargé du plaidoyer pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Demain, on parlera éducation, comme chaque vendredi. Apprendre les langues avec les nouvelles technologies, miracle ou mirage. À demain.
Vous les avez entendus.